Mesdames et messieurs, bonsoir.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est ce vendredi que débute devant la cour d'assises le procès d'une femme accusée de sabotage.
Sylvie G s'est introduite de nuit dans la centrale afin d'en saboter les infrastructures.
Mais l'opinion publique, jusqu'alors divisée, s'était figée lorsque, quelques semaines plus tard, un membre du personnel de la centrale avait trouvé la mort mystérieusement intoxiqué aux métaux lourds.
Entre vengeance personnelle et pollution à grande échelle, quelle justice rendre face à des criminels dont l'objectif est de protéger la planète ?
Bienvenue dans la saison 2 des Assises Imaginaires, le procès de l'eau contaminée. Un podcast proposé par LexisNexis et produit par l'Acmé Productions. Épisode 5, les plaidoiries, partie 1.
Monsieur l'avocat de la partie civile, la parole est à vous.
Urgence. Peut plus respirer. Appelle le SAMU. C'est le dernier SMS que mon client Eric recevra de la part de Christian. Imaginez un instant que la personne avec qui vous partagez tout depuis des années vous envoie ce SMS à 5h du matin, urgence, peut plus respirer, appelle le SAMU. Imaginez que vous recevez ce SMS alors que vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres, l'impuissance. C'est ce sentiment qu'Eric il ressent lorsqu'il prend sa voiture pour rejoindre le plus vite possible son époux. Eric retrouve son mari après deux longues heures de route. Celui avec qui il pensait finir ses jours est déjà mort. Ce qu'il attendait avant tout de ce procès, Eric, c'était un simple pardon. Alors peut-être qu'il se serait contenté d'un simple regard de l'accusé, mais elle n'a même pas daigné le regarder. Pire encore, elle ose dire à la barre, devant lui, droit dans vos yeux, je ne suis pas responsable de la mort de Christian. Alors peut-être qu'elle pense que cette mort, c'est une opération du Saint-Esprit. Évidemment que Madame Gosselin, elle est la seule responsable de cette mort. Pourtant, deux ans après les faits, Madame Gosselin, elle ose encore nier l'évidence. Si elle n'avait pas rempli cette bonbonne d'eau, on serait peut-être au palais de justice pour régler une simple affaire de sabotage, hein, simplement du matériel. Eric et Christian seraient encore ici, tous les deux, pour enfin régler cette affaire avec Madame Gosselin qui leur pourrit la vie depuis des années. Elle qui multiplie les plaintes infondées, elle qui appelle sans cesse la gendarmerie, qui les menace. Mais pourtant, Christian lui-même, il avait tout fait pour apaiser la situation. Il ne supportait plus cette tension. Il la comprenait même un peu, hein, Madame Gosselin. Et d'ailleurs, lui aussi, il aimait beaucoup les chevaux. Alors, il va jusqu'à lui rendre visite pour trouver un terrain d'entente. On lui propose de lui payer une nouvelle clôture pour que ses chevaux n'aillent plus boire l'eau de la rivière. Mais Madame Gosselin, elle ne veut plus rien entendre. Madame Gosselin, elle nous répète que c'est à cause d'un petit coup de colère qu'elle a agi. Alors peut-être qu'on va la croire. C'est simplement sur le coup de la colère que Madame Gosselin, elle s'introduit dans la centrale à 2h34 du matin, une scie circulaire à la main. C'est simplement sur le coup de la colère que Madame Gosselin, elle sectionne les tuyaux d'évacuation d'eau. C'est simplement sur le coup de la colère qu'elle décide de remplir une bonbonne avec l'eau qui a tué ses chevaux. On pourrait presque l'entendre, cette excuse du coup de la colère. Mais 10 jours s'écoulent entre le moment où elle remplit cette bonbonne d'eau et la mort de Christian. 10 jours pendant lesquels Madame Gosselin, elle aurait pu revenir à la raison. Elle aurait pu prendre conscience, dès le lendemain, passer ce simple coup de colère, que ce qu'elle avait fait était très grave et appeler la gendarmerie pour tout avouer. Puisqu'elle le sait forcément. En faisant cela, elle installe une sorte de bombe à retardement au milieu d'innocents. Alors cette eau qui peut tuer un cheval, elle pourrait être bu par n'importe qui dans la centrale. Alors cette eau, elle pourrait être bu par l'assistante de Christian qui, elle, s'en sortira avec une simple nausée. Mais cette eau, elle pourrait évidemment être bu par le mari de Christian. Et pourtant, elle le sait, puisqu'il lui a dit. Il a une santé très fragile. Il a de graves séquelles du Covid. Il ne parvient même plus à faire 200 mètres à pied. Elle va jusqu'à le ramener en voiture chez lui après sa visite des écuries. Ce qu'elle veut, en réalité, Madame Gosselin, ce n'est pas une simple nausée de quelques employés de la centrale. Évidemment, puisque alors son action passerait totalement inaperçue, on mettrait ça sur le dos d'une petite intoxication alimentaire, personne n'aurait fait le lien avec l'eau de la rivière. Elle veut qu'on sache que cette eau tue, comme elle a pu tuer ses chevaux. Alors, 10 jours avant les faits, quand Eric a le malheur de lui dire qu'il est capable de boire cette eau, elle y pense forcément. À ce moment-là, ça fait tilt et elle se dit « Mais cette eau, je vais leur faire boire et mes chevaux seront enfin vengés. » Avec la mort de Christian, elle considère que sa vengeance, elle l'a enfin eue. À l'issue de ce procès, mon client n'aura donc eu aucun pardon, ni même un regard de celle qui a tué l'amour de sa vie, soit. En l'honneur de Christian, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'une chose. Que Madame Gosselin admette le mal qu'elle a causé et qu'elle l'admette enfin, sa colère tue.
La Cour vous remercie. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Monsieur le Président, mesdames, messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs les jurés, l'affaire qui occupe votre cour vous expose à un péril singulièrement mortifère pour la justice, celui de la politique. Votre rôle n'est pas d'en faire. La légitimité des luttes de l'accusé, la justesse de ses combats pour un environnement sain, la constance de ses engagements ne doivent pas occulter l'horreur de ses actes. L'évidence, je le crois, doit être rappelée entre ces murs où ne doivent résonner que les faits et le droit. Le combat politique n'est pas un fait justificatif de l'assassinat. Sur ce, mesdames, messieurs de la cour, Madame Gosselin est coupable des infractions de sabotage et d'assassinat et je vais le démontrer. Concernant le sabotage, je serai bref. Madame Gosselin a reconnu avoir sectionné les tuyaux de la centrale de recyclage d'Argeval, reliant la cuve d'eau usée à la rivière avoisinante, et avoir coupé les circuits d'alimentation de cette centrale. Ces faits sont évidemment constitutifs de l'infraction de sabotage, telle qu'en dispose l'article 411-9 du Code pénal, s'agissant d'un acte de destruction sur un dispositif de recyclage, qui est un maillon important de la chaîne logistique régionale, dont la mise hors service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous entrerez donc sans difficulté en voie de condamnation. Madame Gosselin conteste en revanche, avec une vigueur qui ne doit pas vous tromper, avoir assassiné Monsieur Bergerac. Pourtant, tant les faits que son intention de tuer sont parfaitement clairs. Prenons d'abord ce qui n'est pas contesté. Madame Gosselin avait parfaitement connaissance des graves problèmes de santé de Monsieur Bergerac. En réalité, tout le monde en avait parfaitement connaissance. En atteste d'ailleurs Monsieur Pierre Simon dans son témoignage. Mais plus encore, Madame Gosselin avait pu constater elle-même la nature et l'étendue de la vulnérabilité de sa victime. Au centre équestre, Monsieur Bergerac s'essoufflait sur 200 mètres au point de devoir s'asseoir, livide. Il lui avait fait part des séquelles profondes qu'avait laissé le Covid. Et la criminologie, mesdames, messieurs de la cour, un mot précis pour décrire cet instant où le criminel constate qu'il va être possible de réaliser son infraction et imagine la façon dont il va procéder. C'est l'opportunité. La visite de M. Bergerac au centre équestre, dans lequel il s'était rendu parce qu'il s'intéressait sincèrement aux revendications des habitants de la région, a scellé son sort. Pour lui, c'était un geste guidé par la bienveillance et par la rigueur. Pour l'accusé, c'était une opportunité. En outre, Madame Gosselin connaissait la toxicité relative des eaux de la rivière et pour cause, ses chevaux qui la consommaient régulièrement en mouraient. Alors, lorsqu'elle a sectionné les tuyaux de la centrale, puis a rempli la bonbonne, elle savait que les substances toxiques qui s'y trouvaient tueraient M. Bergerac s'il les absorbait. Et c'était là précisément son intention. Car posez-vous cette question. L'accusé ignorait-elle que la bonbonne pourrait se retrouver dans le bureau de son adversaire, disons politique ? Les chances pour que cela arrive étaient faibles, naturellement. Mais pouvait-elle l'exclure ? La réponse est très simple, non. Au contraire, Madame Gosselin savait parfaitement qu'en plaçant cette bonbonne empoisonnée parmi les autres, à la manière d'une bombe à retardement, celle-ci aurait une chance de tuer la victime. Et le passage à l'acte, ça n'est jamais qu'une affaire de probabilité. Une balle dans la tête, 95%. Un coup de poignard au poumon, 60%. L'impact d'une voiture à pleine vitesse, 40%. Et alors cette bonbonne, 10, 5, 2%, peu importe, la probabilité existe. Et la causalité entre les agissements de l'accusé et leurs résultats est indiscutablement établie. Et ce macabre constat implique une deuxième question. Pourquoi Madame Gosselin s'est arrêtée là ? Pourquoi elle n'a pas cherché à augmenter cette probabilité mortifère ? Pourquoi n'a-t-elle pas rempli plusieurs, si ce n'est toutes les bonbonnes ? Et encore une fois, la réponse est simple. Elle n'en a pas eu le temps. Madame Gosselin s'était introduite clandestinement dans la centrale. Elle devait en sortir au plus vite. Et une évidence glaçante doit présider à vos délibérations. Si l'accusée en avait eu l'opportunité, elle aurait contaminé chacune des bonbonnes de ce placard. Et cet acte odieux aurait pu mener à la mort de plus d'une personne. Et dans ce cas, mesdames, messieurs les jurés, vous ne seriez pas là. Madame Gosselin serait jugée par une cour d'assises spécialement constituée de magistrats professionnels. Non pas pour assassinat, mais pour des actes terroristes. Mais les faits se sont déroulés différemment. Et ainsi qu'il a été démontré, tous les éléments constitutifs de l'assassinat sont réunis. Madame Gosselin a donné la mort intentionnellement à Monsieur Bergerac. Elle a prémédité son geste en planifiant minutieusement ses actions et en couvrant ses traces. Elle se cache encore aujourd'hui derrière la prétendue justesse d'un combat politique présenté comme écologique alors même qu'elle a visé une centrale de recyclage. Elle n'a en réalité servi que ses petits intérêts particuliers. Elle a tué par obstination, par caprice et par haine. Elle a tué avec méthode, froideur et détermination. Aujourd'hui, elle vous demande, indécente, où était la justice à la mort de ses chevaux ? Nous ne parlons pas d'animaux, mais d'un homme. Et la justice doit être au rendez-vous. Je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation de Madame Gosselin pour les faits de sabotage et d'assassinat qui lui sont reprochés. Et au vu de l'extrême gravité des faits, de l'absence manifeste de tout remords de l'accusé, de son mode opératoire et de sa dangerosité, je vous demande de la condamner à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie de la période légale de sûreté de 5 ans.
La Cour vous remercie, monsieur l'avocat général. La parole est à la défense.
Assises imaginaires, avec la participation des secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris, Ambroise Viennet-Légué, Jean-Baptiste Riolacci, Roxane Best et Harold Bataille. Avec les voix de Olivier Bonneau et Rebecca Finet. Écrit et mis en scène par Nima Cartier, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Laurine Bonnefoy et Yanis Decouteau, et mixé par Ben Auriel.